Eureka, du déclic à l'invention, présenté par Alexis. Marre du boulot, mets-toi au repos avec Autoradio.
Avant de clore cette émission, j'ai souhaité donner la parole à Pierre Daror. À la suite de la première partie de l'interview d'André Ampella sur Autoradio, il nous avait interpellé à propos de l'invention du Pass Navigo. Pour lui, il ne considère pas André Ampelas comme l'inventeur du Pass Navigo, qui est plutôt basé sur son brevet commun avec Raoul Parianti. À cette remarque, André Ampelas lui a répondu, et on peut retrouver cet échange en commentaire de l'article de la première émission avec André Ampelas. On va essayer de décortiquer cette affaire sans faire de polémique. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien, et l'intégralité de l'interview sera diffusée ultérieurement.
Venez d'acquérir une carte imagination.
Bonjour Monsieur Pierre Daror.
Bonjour à vous Alexis.
Alors nous sommes également en duplex avec Raoul Parianti de Nice. Bonjour.
Oui, bonjour Alexis et bonjour Pierre.
Alors vous êtes, Raoul Parianti, un inventeur célèbre. On reviendra avec vous dans une prochaine émission puisque vous êtes auteur de pratiquement 150 brevets, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Je suis auteur de 146 brevets exactement, dont certains sont en co-auteur, comme notamment celui avec la RATP, dont Pierre Daror était porteur, inventeur de ce co-brevet.
Et cette année, par exemple, vous avez été distingué à la Foire de Paris pour un miroir modulable en table à repasser.
Oui, pour résumer l'invention en quelques secondes, il s'agit d'un élégant miroir qui ne fait que 6 cm d'épaisseur et qui intègre et se transforme en quelques secondes, non pas en une planche à repasser, mais en une centrale vapeur complète.
Centrale vapeur, oui.
Avec la planche, avec le fer, avec la chaudière et le réservoir. Tout ça dans 6 cm d'épaisseur. Vous avez un site qui est tout simplement starpress.fr où vous pouvez découvrir l'invention avec des images animées. C'est probant.
Alors, Monsieur Pierre Daror, d'abord, quelle était votre fonction en 1988, l'année du brevet?
Alors, je m'occupais à la direction des systèmes d'information des projets des développements pilotes. C'était imaginer de nouveaux produits, nouveaux services qui concernaient, et bien évidemment, essentiellement le transport.
Pour le marketing?
Non, c'était à la direction des systèmes d'information. C'est plus tard que je serai appelé à la direction commerciale pour effectivement reprendre derrière celui qui a introduit la carte à mémoire en tant que titre de transport et moyen de paiement à la RATP, qui était François Adam. Idée qui a émergé en 1984.
1984. Donc vous êtes resté à la RATP toute votre carrière ?
J'ai fait toute ma carrière, plus de 40 ans à la RATP, oui.
Et vous êtes aujourd'hui à la retraite ?
Depuis un an et demi.
Quel était le rapport avec le service d'André Ampelas qui lui s'occupait du service plutôt technique ?
Aucun. Aucun parce que en 1984, je crois que André Ampelas était très très loin de ces problématiques. Il faut savoir, je reviens sur l'utilisation de la carte à mémoire, comme je disais tout à l'heure, titre de transport et moyen de paiement, c'est une première mondiale, est né de l'idée de modifier la tarification. Et ça, c'est déjà le premier élément contre lequel je m'inscris en faux contre André Ampelas qui dit qu'on n'a jamais imaginé de tarification intéressante et nouvelle pour la RATP. Eh bien non, c'est complètement faux puisque le projet carte à mémoire est parti justement de la direction commerciale en 1984. Le directeur était Jacques Banazuc et il y avait déjà l'idée de continuer la première révolution de 1974 qui avait été de créer la carte orange, donc un titre forfaitaire, mais on avait laissé le chantier non achevé parce que restait à traiter le problème du carnet de tickets et le problème du ticket à l'unité. Et ça, on savait pas bien faire. Arrive un nouvel outil, la carte à mémoire, et là, c'est toute, je dirais, la perspicacité et l'imagination de François Adam qui va se dire, mais bon sang, et si on utilisait ce support qui est une mémoire importante qui devrait permettre de modifier les tarifications en profondeur. Et c'est ce qu'il va faire à Blois Je vous rappelle que le maire était Jacques Lang à l'époque et que ça a fait grand bruit.
En effet, j'ai un rapport que vous m'avez présenté d'un mémoire philosophique, sociologique.
C'est ça, sociologique.
Qui date de 1993 sur le Pass Navigo, en effet. Et donc là, on voit bien que l'histoire du Pass Navigo commence par en fait une question.
Absolument,
tarifaire.
C'est une question tarifaire.
On fait un bond et on fait un bond jusqu'à votre brevet en fait en 1988 avec Raoul Parianti. Raoul Parianti, comment vous arrivez dans ce projet-là ?
À l'époque, j'avais développé le premier système de téléphonie avec des bornes relais hein, qui plus tard est devenu le GSM. Et cette invention avait fait pas mal de bruit dans les médias. Et un jour, Pierre Darroch m'invite gentiment à la RATP en disant « Voilà, nous avons une problématique, vous êtes un créatif, est-ce que vous pouvez imaginer quel sera le mode de péage, de paiement de l'an 2000 ?» Parce qu'à l'époque, on était en 1988, alors l'an 2000, ça nous paraissait très loin. Et j'ai proposé à l'époque donc une notion de sans-contact. J'étais expert en infrarouge, puisque j'étais le premier à travailler sur le système de très haut débit infrarouge qui est devenu à plus tard l'IRDATA. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque. On faisait de l'infrarouge bidirectionnel qui pouvait transmettre, qui pouvait travailler jusqu'à 500 kilo-octets, ce qui était remarquable, alors que l'infrarouge, à l'époque, c'était le taux de transfert, c'était plus de 128 octets. Il y avait un espèce de bond en avant tout à fait intéressant. Et on travaillait en alternat, c'est-à-dire ça allait dans les deux sens, alors que l'infrarouge d'une télécommande, comme chacun sait, c'est unidirectionnel. Donc, en appliquant cette technologie, ce savoir-faire acquis dans l'infrarouge.
Donc, le prototype du brevet, c'est le brevet, c'est un procédé de péage à infrarouge sans contact par carte mémoire, notamment pour le moyen de transport et dispositif de péage utilisant un tel procédé. Donc, en fait, on est pour le mode de transport, mais vous allez le tester à la plaque dans une station de ski.
Absolument.
Mais ça ne sera pas suivi d'expérimentation dans le métro.
Il y a eu des petits problèmes internes, je dirais, à la RATP. Le projet restait dans une position, je dirais, d'attente. Et il s'est passé un long moment. Et d'autres ont repris, en quelque sorte, l'idée pour leur compte, pour affirmer avoir inventé le péage sans contact, alors que nous étions les auteurs bien avant.
Mais cette expérimentation pouvait-elle se transposer, hein, c'est un peu la question qu'aimait André Ampelas. Pouvait-elle se transposer dans une grande ville comme Paris, où il y a beaucoup d'usagers de passage, en sachant qu'en effet, est-ce qu'on n'est toujours pas, on est peut-être toujours dans le même problème que précédemment sur la première expérimentation, où le temps d'attente et de transmission va être trop long.
Ah non, pas non, avec l'infrarouge, on était passé de 1 seconde 5 à 0,2 secondes. Donc ça fonctionnait fortement bien. Ce qui s'est produit, c'est que si vous avez regardé la petite vidéo que je vous ai envoyée présentant ce qu'on a appelé le passeport multimédia, parce que j'allais beaucoup plus loin que le simple titre de transport. Hein. Il y avait, dans l'idée de démarrage, de se débarrasser de toutes ces barbacanes, de ces lignes chez nous de péage qui constituent finalement des barrages et des inconvénients pour nos clients. Et c'est la raison qui a fait que nous avons choisi aussi l'infrarouge, qu'il y avait simplement une zone de péage. C'est-à-dire que dans les tunnels, notamment pour le métro et le RER, on définissait en peinture une zone qui devait faire une dizaine de mètres de long, dans laquelle le client était invité à zapper. Alors, à la limite, on aurait pu se dispenser de ce geste de zapping, puisque, comme l'expliquait Raoul, la technique qu'il avait mis au point permettait d'aller réveiller le badge du client sans qu'il fasse un quelconque geste. Mais moi, je voulais conserver, vous savez, Alexis, le top là du paysan sur la foire. C'est-à-dire, je fais un geste qui prouve que je suis OK sur le contrat de transport pour éviter tout problème juridique.
Ouais, ça marchait vraiment bien. On pouvait, en effet, contrairement donc à une télécommande, parce que c'est vrai que c'est un peu le sujet. On est sur de l'infrarouge. On pense à la télécommande où c'est unidirectionnel. Donc là, c'est déjà dans les deux sens. On peut envoyer et recevoir. Il ne fallait pas non plus activer. On pouvait le détecter automatiquement. Ouais.
Absolument. Mais alors, il faut aussi voir ce que je vous disais. Imaginez. Lorsqu'on a présenté ce film au président Christian Blanc, toute notre direction générale derrière s'est dit « Ouh là là, c'est pas possible que de supprimer les lignes de péage. Ça va, mais ils vont nous générer de la fraude massive. Et c'est là où on est revenu à une barbacane. Et bien évidemment, il fallait se dire que le péage à 10 mètres ou à 5 mètres, ça devenait un problème. Mais vous savez, en infrarouge, c'est très facile à régler. Il suffit de diminuer la cible. Hein? Quand Ampelas dit, c'est une invention inadaptée au transport en commun. Alors d'abord,
pour les grandes villes, en fait.
Oui, oui. Enfin, j'ai quand même une interrogation, parce que il dit 21 minutes 32, hein, de première interview.
Le premier prototype qu'on ait présenté, c'était à Stockholm en 1989, donc un an après le démarrage, 88. Eh bien, le premier prototype était en infrarouge. D'accord? Donc, il y avait bien un télépéage piéton, mais on ne savait pas qui avait appuyé sur le bouton, puisqu'en infrarouge, le voisin pouvait aussi avoir appuyé sur le bouton.
Bon, alors, c'est pas Stockholm, en plus, la première présentation. En 89, c'était pas Stockholm, ça s'est fait à Singapour. Stockholm, ça ne viendra qu'en 91 et peut-être même en 92.
Le seul souci de cette technique, qui est un succès, en fait, c'est de supprimer les péages. On ne veut pas supprimer de péages. C'est voilà. Un risque de fraude.
De fraude. Voilà. Et là, effectivement, il y a retravail sur les technologies. Mais je vous dis, l'infrarouge, c'était très simple. Hein. Il suffisait de réduire la cible, de faire une toute petite cible. Et puis voilà. Plus on réduit la cible, plus on est obligé de s'approcher pour valider son titre. Une carte plus un boîtier. Pourquoi le boîtier? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'estimais qu'il fallait que ce soit du multiservice, c'est-à-dire un engin qui permettait la facilitation de l'accès à la ville pour le client. Et donc pas uniquement limité au strict paiement du transport. Donc on pouvait recevoir dessus des informations. Et Ampelas, effectivement, avec ses équipes, a développé un boîtier plus une carte que voilà. Alors l'information était minimale, mais elle fonctionnait déjà. Il y avait juste 4 caractères. Hein. Donc on pouvait indiquer l'heure. On pouvait indiquer la nature du titre que vous aviez et surtout sa validité. Est-ce qu'il était valable? Oui. Ou est-ce qu'il n'était pas valable? Non.
Aussi, un des inconvénients, peut-être, ça peut être qu'il fonctionne avec une pile.
Il est auto-alimenté, mais c'est justement son avantage. Donc, l'avantage du boîtier avec un écran...
Il n'y a pas d'affichage, oui.
On peut afficher ce qu'il y a sur la puce.
Exactement.
Des informations commerciales, des informations de transport, le RER va arriver dans 3 minutes, et bien évidemment les informations de péage.
Pour compléter ce que dit Pierre, la pile présentait évidemment un avantage en termes d'auto-alimentation, mais il faut savoir qu'une pile lithium de 100 ampères-heure par 1000 ampères-heure permettrait 7, 8, 10 années d'usage si on s'en sert 5, 6 fois par jour.
Il n'y a pas beaucoup de besoin d'énergie pour alimenter
Absolument. On fonctionnait, nous on fonctionnait avec par exemple 5-6 milliampères pendant 2 secondes. Alors si on fait un petit calcul rapide, on se rend compte que ça représente 10 années d'utilisation, sauf bien sûr si on met l'objet dans un grand froid plusieurs nuits de suite. Alors là, il y a évidemment des décharges internes qui permettent de pénaliser la batterie, mais l'autonomie était très très grande.
Oui, pour payer, alors après si on rajoutait des informations, c'était un peu indiqué dans la démo, où on pourrait avoir pas mal de connexion, hein. C'est incroyable parce qu'on est en 1989, on parle de connexion avec le monde extérieur de la RATP. Là, ça aurait demandé beaucoup plus d'énergie.
C'est ça. Mais je voudrais revenir sur l'abandon de la pile. Pourquoi on a abandonné le boîtier plus la carte? Bah ça résulte de la guerre entre la SNCF et la RATP.
D'accord. Est-ce que on est sûr, parce que c'est un peu le désaccord que vous avez, on est sûr que dans Paris, un système comme ça d'infrarouge pourrait fonctionner? C'est-à-dire que au départ, la carte à mémoire dans le bus, c'est un peu compliqué, ça met du temps. Est-ce que là, si on est beaucoup à passer par cette zone de contrôle et qu'on zappe, est-ce qu'on va pouvoir facilement savoir s'il y a beaucoup de trafic à ce moment-là, si on a payé, si celui-ci a payé
Absolument, je peux répondre. Il s'agit de technique pure. Le système que nous avions développé avec Pierre, c'est un système qui fonctionne de manière bidirectionnelle. Autrement dit, chaque fois qu'une personne disait « je paye », son identité ou alors son profil était évidemment pris en compte, il y avait 2-3 allers-retours, tout ça se faisant en quelques millisecondes. Les premiers tests faisaient effectivement 0,2 secondes, mais on peut optimiser très 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 facilement jusqu'à 5 millisecondes. Tous les problèmes de collision possibles ont été réglés. On ne peut pas prendre un abonné pour un autre. Donc, nous avions mis au point un produit qui pouvait permettre un très, très, très grand défilé de personnes, qui, même si les personnes zappent en même temps, instantanément, on a fait des tests avec Pierre, on met 10 boîtiers qui appuient en même temps, chaque boîtier est traité individuellement et reçoit évidemment le message ad hoc. Donc, il n'y avait absolument aucune inadéquation entre l'infrarouge et les transports parisiens ou même les transports de grandes villes comme Hong Kong. C'était totalement compatible.
Alors du coup, cette technique ne sera pas choisie.
C'est ça. Le président Christian Blanc voit de joyeux lurons là avec une espèce de monstre. C'était un monstre, Raoul, hein, ce qu'on avait mis au point quand même. Hein. Vous avez, je vous dis, sur la table roulante un truc qui doit faire à peu près 50 kilos. Et puis on vous dit, bah regardez, ça va être réduit en un petit machin que même un enfant pourra porter dans sa poche sans que ça se voit. Et Christian Blanc, quand il a vu notre truc quand même, oui, il a eu cette intuition de dire c'est intéressant pour l'entreprise et je vois bien ce qu'il y a derrière, notamment en matière commerciale, pas strictement technique, commerciale. Il avait aussi en tête le coût des avions nifleurs. Donc, il a demandé à ce que le secret absolu soit fait sur la mise au point de ce concept en matière industrielle. Et Ambelas a été réglo, c'est-à-dire qu'il a donné aucune information. Sauf que nos petits copains de la SNCF, ils ont bien entendu parler de ce que la RATP est en train de faire. Le président du syndicat, qui est Georges Debias, dit « Moi, je peux pas laisser faire la RATP toute seule sur cette technologie. On a une autre grosse entreprise qui s'appelle la SNCF et on a un autre groupe de transporteurs routiers. On est obligé de tenir compte de tout le monde. Donc, désolé, il faut que les uns et les autres se mettent d'accord. » Une réunion est montée à laquelle participe Ambelas, le directeur des services techniques de la SNCF, le représentant d'Optil, donc les 80 prisés, et là, clash, Ambelas dit « Non, je suis désolé, on m'a demandé le secret, je reste dans le développement de notre technologie de façon secrète. » Là, le directeur des services techniques de la SNCF se lève et s'en va en disant « Puisque c'est comme ça, nous développerons notre propre technologie. » Et voilà, deux technos qui vont s'affronter. La SNCF travaille en hyperfréquence, comme les autoroutiers, et la RATP, elle, se centre, sous l'impulsion d'Ambelas, sur la radiofréquence, et bien la proximité. Il a bien fallu, à un moment ou un autre, rapprocher les points de vue. Et c'est le syndicat des transports parisiens qui a dit « maintenant ça suffit », qui a tapé du poing sur la table, en disant « il n'y aura qu'une seule technologie en France ». Et il a combiné les deux choses. On abandonne le boîtier auto-alimenté et on ne conserve qu'une carte unique comme le préconisait la SNCF, avec d'ailleurs une logique moi qui me paraissait un peu folle, qui était de dire c'est pas grave que le client puisse pas lire ce qu'il y a sur la puce, quand il voudra savoir ce qu'il a sur la puce, il ira sur une borne, voilà, et comme donc, on a appauvri le concept.
Ouais. Absolument.
Et qu'on est arrivé à la carte d'aujourd'hui, qui est cette carte à distance.
Alors, le dernier point qu'on va aborder, c'est cette histoire de brevet. C'est vrai qu'un brevet, c'est assez compliqué de savoir qui est l'inventeur. Ce brevet est vraiment basé sur de l'infrarouge. Donc, vous êtes sur toute l'histoire de la création de ce Pass Navigo. Mais finalement, la technologie retenue n'étant pas de l'infrarouge, est-ce que vous êtes un peu le créateur, mais sans être l'inventeur?
Alors, dans un brevet, il y a plusieurs concepts. Il y a le concept de l'invention qui permet de résoudre un problème. Ensuite, il y a le concept des moyens mis en œuvre. Et il y a surtout le concept des équivalences. Et je reprends ce qu'a dit Pierre de manière tout à fait pertinente. Celui qui a inventé le diesel après la voiture, il ne peut pas prétendre avoir inventé la voiture. Et en termes d'équivalence, l'infrarouge, la radiofréquence, l'hyperfréquence sont des vecteurs de transmission. Par conséquent, le concept de brevet qui a été fait avec un module intelligent comportant les informations auto-adaptatives par rapport à des situations, etc., et tous les paramètres qu'on peut imaginer, et il y avait le vecteur transmission. Mais il faut savoir qu'en termes de brevet, la notion des équivalences va faire que le système RFID est complètement contrefacteur du brevet infrarouge puisque c'est un élément équivalent qui permet de transporter des datas. Donc, on peut dire clairement que les brevets qui utilisent le système de péage, de paiement, utilisant un système de modules ou cartes à mémoire intelligents et programmables, qui utilisent tantôt l'infrarouge et tantôt le RFID, sont des brevets dits équivalents en termes de vecteurs. Pour faire court, lorsque une invention ressort de la notion d'activité inventive, il y a ce qu'on appelle dans le droit des brevets européens l'effet waouh. Une fois qu'on a mis au point le système de transmission par infrarouge avec tout ce que ça peut apporter, quand on a fait passer de l'infrarouge à RFID, il n'y avait pas d'effet waouh, autrement dit, il n'y avait plus d'activité inventive. Donc, je pense qu'on peut affirmer aujourd'hui que si on change le vecteur de transmission, c'est pas pour autant qu'on n'est pas contre vecteur d'un brevet.
Oui, alors je comprends bien cette idée-là, mais il y a quand même l'histoire des revendications. Dans les revendications, vous auriez pu préciser pour être complètement dans votre droit, aujourd'hui on utilise ce système infrarouge et demain on peut utiliser d'autres systèmes.
Alors si vous voyez le dernier paragraphe du brevet, pardonnez-moi d'interrompre, il est bien indiqué, la toute dernière ligne qui est classique, que tous les éléments en termes de forme, de matière ou de vecteur ou de transmis, enfin de tous les éléments, de tout ce qui est équivalent reste dans le cas du brevet. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la loi générale. Alors bien sûr, quand on fait un brevet, il faut savoir quel est le problème qu'on veut résoudre. C'est de payer à distance, d'accord? Alors on a mis tous les moyens et sous-moyens, mais si j'ai bonne mémoire, on parle de différents vecteurs dans le brevet. Je n'ai pas l'esprit, mais on a bien indiqué la notion d'équivalence. Donc on peut dire très clairement que le brevet RATP Parianti a été en quelque sorte, allez, on va dire contrefait, peut-être à la marge, mais contrefait quand même par ce qui est arrivé plus tard.
D'accord, bon, c'est évidemment difficile là sur place. Moi, je vous crois volontiers, mais c'est vrai que j'ai pas la page d'équivalence dans le brevet que j'ai sous les yeux en fait.
Je vais essayer de le retrouver. Je l'ai pas sous les yeux non plus. Ça remonte à quelques années quand même.
Oui. Merci Raoul Parianti. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Raoul Parianti?
Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans votre interview. C'est très intéressant.
Vous revenez quand vous voulez avec vos prototypes pour qu'on les essaie ici dans le studio d'Autoradio. Il n'y a pas de problème.
Hein. Merci bien.
Merci à vous, Alexis.
La très bonne soirée, Alexis. Très bonne soirée, Pierre. Au revoir.
Ne restons pas sur notre faim, on retrouve Pierre Daror et Raoul Parianti pour la suite et fin de l'aventure du Pass Navigo avec l'intégralité de l'interview et des extraits de l'interview d'André Ampelas sur le Pass Navigo pour une troisième émission spéciale Pass Navigo. Je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer à notre jeu concours, il suffit pour cela de répondre à nos deux questions posées en début d'émission. Eh bien, retrouvez les prochaines diffusions de l'émission sur notre site autoradio.com pour tenter ou retenter votre chance. Ciao, ciao!
C'était Eureka du Déclic à l'Invention. À bientôt pour de futures aventures.
Radio, radio, auto, 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 radio, radio, radio.